VOA Afrique, les infos. À Washington, Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un point complet sur l'actualité, il est 19h, temps universel. Les Nations Unies et les forces centrafricaines ont lancé ce dimanche une opération visant des groupes armés dans le quartier du PK5 à Bangui, au cours de laquelle au moins 2 personnes ont été tuées et 56 blessées selon l'ONU et des sources médicales sur place. Au moins 2 personnes, je le disais, ont été tuées selon des sources hospitalières et Médecins Sans Frontières. 11 casques bleus, en majorité des Égyptiens, figurent parmi les blessés dans cette opération commune des forces de l'ONU avec les forces de sécurité centrafricaines, indique un porte-parole de la MINUSCA. Et puis par ailleurs, un prêtre catholique a été tué ce dimanche par des présumés miliciens dans un village de la région troublée de l'Est de la République démocratique du Congo. L'abbé Étienne Senguyumia, curé de la paroisse de Kichanga, a été tué ce dimanche par des Maïmaï Nyatura à Kayamba, où il célébrait la grande messe de baptême et un mariage. C'est ce qu'a déclaré l'abbé Louise de Gonzague de Nzabenita, vicaire général du diocèse de Goma, dans la province du Nord Kivu. Au Mali, 5 djihadistes ont été tués vendredi dans une opération de la force Barkhane, près de Tombouctou, dans le nord du Mali. C'est ce qu'annonce l'état-major français des armées. Barkhane a mené cette opération à environ 120 km au nord de Tombouctou, a précisé le porte-parole de l'état-major, le colonel Patrick Steiger. 5 djihadistes ont été mis hors de combat, a-t-il ajouté, sans plus de précision. Et puis la coalition de l'opposition au Togo, qui proteste depuis 7 mois contre le président fort, Niasimbe, a appelé à des marches pour la semaine prochaine, des manifestations interdites par le gouvernement. Ces manifestations avaient été suspendues en raison de l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous la facilitation du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Et puis au Ghana, 6 mineurs ont été tués et 2 blessés hier par l'effondrement du toit d'un tunnel d'une mine d'or exploitée par l'entreprise américaine Newmont dans le sud du pays. L'accident s'est produit dans la région de Brong Ahafo, située à environ 430 km de la capitale Accra. Dans le reste du monde, une attaque chimique présumée ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas a soulevé un tollé international. Le président américain Donald Trump avertissant Bachar el-Assad et ses alliés qu'il faudrait payer le prix fort pour ce bombardement. Sous l'impulsion de la France, 9 pays ont demandé une réunion urgente ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU sur cette attaque à Douma. Le régime syrien défendu par ses 2 alliés, la Russie et l'Iran, a démenti toute implication dans une éventuelle attaque chimique. Par ailleurs, Donald Trump s'est dit convaincu qu'un accord sera trouvé avec la Chine pour éviter un conflit commercial. Le 8 mars, le président américain avait décidé d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium, avant de réclamer plus tard d'autres taxes visant spécifiquement des importations chinoises, en rétorsion selon lui au vol de propriété intellectuelle reproché à Pékin. La Chine avait alors déclenché des mesures punitives contre des produits américains. Allez, on parle de sport en ce dimanche soir. Antoine Griezmann a répondu à Cristiano Ronaldo. Match nul, 1 but partout dans le derby entre le Real et l'Atlético Madrid. Les deux numéros 7 madrilènes ont marqué lors de ce derby de la 31e journée du championnat d'Espagne, à la grande joie du leader Barcelone, tout proche du titre, puisque en effet, le Barça compte 11 longueurs d'avance sur les Colchoneros à 7 journées de la fin. En Italie, malgré de nombreuses occasions très nettes, l'Inter Milan a été battu 1-0 sur le terrain du Torino et ne profite pas du faux pas de l'AS Rome pour remonter sur le podium. L'attaquant international tunisien Youssef M'Sakni, touché samedi au ligament croisé du genou lors d'un match du championnat au Qatar, sera indisponible pour le Mondial 2018 en Russie, c'est ce qu'a indiqué dans un communiqué son club. Et puis on parle à présent du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération 2018. Les Sénégalais de Génération Foot ont pris une option sur la qualification pour la phase de poule du tournoi en battant les Marocains de la Renaissance Barkhane 3-1. Et puis ce dimanche, la belle victoire au Nigeria en déplacement du Djoliba qui domine MFM 1-0. Gor Maya s'impose à domicile 1-0 contre Supersport United. Belle victoire de l'ASEC Mimosa contre Belouizdad de l'Algérie 1-0. Et puis Al Hilal du Soudan qui mène pour le moment 2-0 face à Akwa United du Nigeria. On rappelle qu'un peu plus tôt, l'AS Vita Club avait battu samedi La Mancha 1-0. Le Kara de Brazzaville s'était lui incliné en Éthiopie contre Saint-Georges 1-0. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. On vous retrouve 24h sur 24 sur voaafrique.com et sur notre page Facebook. On se donne rendez-vous à 20h, temps universel.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
traditions,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous ce soir et nous parlons de l'islam et de l'héritage. En vertu de la loi coranique, une épouse n'hérite que d'un huitième de son mari, ses fils deux fois plus que ses filles. Par ailleurs, les filles ne peuvent hériter qu'avec la participation obligatoire d'un homme. Cette situation crée parfois des tragédies dans les familles. Au Maroc, par exemple, de plus en plus de voix s'élèvent pour l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Qu'en pensez-vous ? Est-ce difficile de dépasser le Coran pour assurer l'héritage à la fille ? Vous avez l'opportunité d'exprimer votre point de vue. Vous pouvez nous appeler au plus 1 202 205 26 33. Au plus 1 202 25 20, je reprends le numéro, c'est le plus 1 202 205 26 33. Nous avons déjà un auditeur en ligne, c'est Moïse Cissé. Moïse Cissé, bonsoir.
Allez, bonsoir mon frère.
Vous avez la parole, vous nous dites dans votre commentaire sur la page Facebook que on obéit intégralement à la charia, le Coran et la tradition du prophète Mohammed.
Oui, exactement.
Voudriez-vous expliciter davantage?
Je salue tous les auditeurs. En fait, en islam, il faut que les gens comprennent d'abord ce que veut dire être musulman. Être musulman, c'est d'obéir intégralement à la parole d'Allah et à la pure tradition du prophète Mohammed. Vous savez, dans le Coran, la sourate 33, ayat 36, que certains appellent verset, moi je n'aime pas trop le mot verset, ayat 36, il est écrit que quand Allah et son messager ont décrété un acte, le musulman ou la musulmane n'ont pas le choix que d'obéir. Alors, on ne peut pas se dire musulman et contredire ce que Allah a dit dans le Coran. Non. Par contrainte de cette laïcité qu'on veut nous imposer et autre chose, le musulman peut accepter par contrainte, mais ce n'est pas par adhésion, par conviction. Non, le musulman est fidèle au Coran intégralement. La parole d'Allah n'est pas négociable. Alors on ne peut pas se dire musulman et vouloir changer pour des raisons financières ou bien là où ça arrange, je fais comme ça, là où ça n'arrange pas, je fais comme ça. Non, c'est pas ça. Si on prie 5 prières dans la journée, c'est parce que Allah nous a prescrit dans le Coran de prier. Et le prophète alayhi salatu wasalam nous a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. On n'invente rien en islam.
Moise.
On n'est pas content, on est libre de faire le religion qu'on veut.
Moise, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je pense que Moïse. Oui, Moïse. Je vais vous donner un témoignage d'une femme qui dit que son père souhaitait que leur maison revienne à leur mère après le décès du père. Mais à sa mort en 1992, les frères ne s'en sont pas souvenus. Ils ont voulu hériter. L'un d'eux a même exigé la double part qui lui revenait de droit. Et après, ils ont vendu la maison et la maman s'est retrouvée dans la rue. Est-ce que vous pouvez accepter de mettre votre maman dans la rue pour hériter à...
Non, mon frère, la maman a sa part de l'héritage dans la religion. En islam, on n'a pas dit de chasser la maman ou de la mettre dans la rue. Non. Et cette dame qui fait ce témoignage devrait quand même s'approcher des érudits en islam qui vont lui donner à la maman ce qui est sa part. La maman a une part. l'islam n'a pas exclu la maman comme on veut nous faire entendre. Non, non, non. La maman fait part. Maintenant, c'est les érudits qui doivent faire l'héritage comme ça a été proscrit par Allah dans le Coran. C'est ce que cette dame doit savoir. Et si elle est musulmane, elle doit accepter la manière de faire l'héritage que Allah a proscrit dans le Coran.
Je vous donne un autre témoignage. Une femme qui dit, une de mes grandes tantes, sans enfant, s'est retrouvée à la rue à la mort de son mari. Les frères du défunt, héritiers légaux, avaient vendu sa maison. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, j'ai pas bien compris. Je sais pas si c'est la maman à eux ou bien si c'est le frère... C'est une maman
qui n'avait pas eu d'enfant, et après la mort de son mari, ses beaux-frères, qui sont des héritiers légaux au regard du Coran, ils ont vendu sa maison et s'est retrouvé dans la rue.
Eh bien, mon frère, il faut que les gens comprennent quelque chose. On ne se marie pas avec un homme pour se dire. Non, non, non. On se marie à un homme parce qu'on l'aime. On se marie à un homme pour fonder un foyer. On ne se marie pas pour des biens matériels. Il faut que les gens comprennent cela. Et cette maman, si elle est musulmane, elle doit chercher à savoir qu'est-ce que l'islam dit par rapport à son camp. Et si c'est le cas, et bien si elle n'a pas une part parce qu'elle n'a pas d'enfant ou bien parce que les autres ont plus de part que lui, ça, elle doit l'accepter si elle est musulmane. Elle doit se contenter de ce que la charia la donne.
Moise,
voilà. Oui.
Mais elle n'a rien reçu. Elle s'est retrouvée dans la rue.
Eh bien, si dans son cas, elle ne devrait pas recevoir quelque chose, elle ne doit pas se plaindre. Elle s'est mariée pour l'argent ou bien pour la maison ou bien pour l'homme.
Merci, Moise. Merci, Moise, pour votre contribution. Nous avons Diara Kanyoumé au Mali. Diara, bonsoir. Ah, Diara Kanyoumé n'est pas en ligne. Steve Boko, vous êtes là. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi à Moise Cissé tout à l'heure. Que pensez-vous de son point de vue?
Moi, je vois que cela est un comportement un peu cannibaliste, parce que moi, en ce qui concerne la religion, il doit falloir que l'on doit faire la nuance entre la tradition et la constitution du pays. On ne peut respecter les règlements de la religion et violer la constitution. Vous voyez, donc je pense très bien que dès que vous vous mariez, même si vous n'avez pas d'enfant, les biens sont partagés. Vous voyez, donc il doit falloir que l'État, c'est-à-dire le gouvernement de l'Arabie Saoudite, doit essayer de bien voir ce qu'a envie de détenter la situation. Si nous constatons de l'hégémonie dans cette situation. Et nous devons même se focaliser. Parce que les règlements de l'islam, moi je vois ça que c'est sous forme d'une tradition. On doit bannir cela et se focaliser sur la constitution du pays en vue d'établir la parité entre hommes et femmes. Vous voyez, monsieur le journaliste, est-ce que je prétendais dire un peu là-dessus?
Merci, Steve, pour votre point de vue. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Il y a Eddie Loma qui dit que ce sont des lois établies par les hommes pécheurs, selon lui, et non par notre unique créateur Dieu. C'est plus que ça qu'a dit mon divin sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il doit être chrétien. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Toutes ces lois, quoi qu'on dise, il faut respecter les autres. Il ne faut pas créer des problèmes dans les familles. Toutes les lois qui créent des problèmes ne sont pas de bonnes lois. C'est le point de vue d'Eddie Loma. Alphonse Mbouaki, il est en RDC. L'État est au-dessus des institutions et lui seul peut se passer du Coran et modifier cette position du Coran pour rétablir les filles dans leurs droits. Elisabeth Degon, il dit franchement, c'est pas cool pour les femmes, encore une fois. C'est son point de vue. Il y a cette femme marocaine qui se pose une question. Comment pourrais-je garantir les réactions de mes frères ou de mes neveux après mon décès? C'est une femme qui fait du business, qui prospère, mais qui a trois enfants. Les trois enfants sont tous des filles. Elle se pose donc une question, comment elle peut protéger pour que le fruit de ses efforts n'échappe pas à ses trois filles. Le fruit de notre travail, donc elle et son mari, il n'est pas question que nos biens, c'est cette femme qui parle, le fruit de notre travail revienne aux oncles ou cousins de nos filles. C'est un de nos soucis, ce qu'elles sont en train de faire, donc ce couple, ce que ce couple est en train de faire, c'est de essayer de détourner cette loi coranique pour s'assurer que leurs filles héritent leurs biens. Nous avons Ozana en ligne. Ozana, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à tous vos frères auditeurs.
Je vous écoute.
Alors, moi, je dirais que cette loi, surtout, est caduque et archaïque. On doit, le monde évolue, donc on doit évoluer au rythme du monde actuel. Au nom de la religion, on ne peut pas priver des filles pour hériter les biens de leurs parents. Sinon, à ce que je sache, peut-être que la fille ne peut pas hériter une concession, une maison, mais la loi n'interdit pas chez moi que, par exemple, la fille hérite, par exemple, l'argent ou une voiture. Bon, le reste des biens sont acceptables quoi, que les filles héritent. Donc, moi, je pense que le monde ou la religion islamique doit essayer de voir un peu sa position sur cette question. Moi, je pense que c'est une atteinte au droit. Et au droit surtout des filles ou des femmes, quoi. Donc, on ne peut pas longtemps. C'est possible qu'on change cette loi et puis permettre aux filles de se réjouir des biens de leurs parents. Si, par exemple, un parent qui a seulement que des filles, on peut donner tout à ses oncles ou à ses tantes, mais comment les filles vont maintenant vivre ou comment les filles vont résoudre leurs problèmes? Non, je pense que c'est une torture, c'est une façon de blâmer les filles, et moi je trouve surtout anormal. Donc j'interpelle aussi ces droits de l'homme à s'ingérer là pour essayer de trouver une solution qui serait vraiment favorable à nos sœurs et à nos femmes ou filles, surtout musulmanes, quoi.
Merci, Ozana. Ozana, restez à l'écoute. Oui. Nous avons un commentaire de quelqu'un du Maroc, il s'appelle Khalid. Il dit, notre société est traversée par des courants très conservateurs. L'inégalité de l'héritage, c'est la parole de Dieu, on ne doit pas y toucher. Même les femmes qui en sont victimes sont contre. Que pensez-vous de ces femmes, malgré les tragédies que ça crée?
Moi, je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. Et comme vous savez, nos frères musulmans sont vraiment rigoureux, surtout sur leur Coran. Mais je pense qu'au niveau des hommes, on peut essayer de changer cette façon. Hein, parce que, vous savez, moi, je trouve que c'est surtout faire du mal aux femmes. Donc, que les imams ou ceux qui ont la responsabilité actuelle sur la religion musulmane, ils peuvent essayer d'améliorer, faire des aménagements, surtout en ce qui concerne un certain nombre de lois. Parce que vous savez, nos sœurs musulmanes sont vraiment souffrantes. Il y a une restriction de leur liberté, droit fondamental. Donc, ce truc, c'est anormal. Le monde évolue, la mondialisation fait qu'on doit aussi améliorer un certain nombre de choses que de rester sur des choses qui datent de longtemps, des choses qui fait des années, je pense que c'est anormal. Il faut faire des aménagements, il faut faire des améliorations pour permettre à ces filles, parce qu'on parle souvent de l'épanouissement des femmes, l'émancipation, donc ça entre aussi dans ces cadres, donc on ne peut pas rester seulement sur la même chose depuis des années et faire du mal aux femmes ou vivre, je pense que c'est anormal.
Merci pour votre contribution. Nous avons, c'était Ozana qui était en ligne, nous avons à notre commentaire de Rally toujours qui poursuit en disant « Mes belles-sœurs ne veulent pas contrarier Allah et s'opposent à un partage égalitaire. » Nous avons Tcherno en ligne. Tcherno, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à l'ensemble des auditeurs et auditrices de VOA Afrique.
Voilà, quel est votre point de vue?
Bon, pour moi, les femmes qui s'agitent, les femmes musulmanes qui protestent contre les lois divines, je vois pas ça normal, parce que c'est tout à fait clair, il n'y a pas de polémique là-dessus, c'est bel et bien clair, bien à trancher.
Tcherno,
oui.
Mais Dieu, il ne fait pas de la discrimination.
La discrimination n'existe pas, c'est Dieu. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il n'y a pas de discrimination. Et c'est très clair là-dessus. Ce qui concerne l'héritage, c'est bien écrit sur le Coran. L'héritage est la femme en islam, ce qui dit le Coran. Les femmes héritent la moitié, ce qui hérite les hommes. Si c'est ce qui fait que les femmes révoltent, ce n'est pas les hommes qui l'a dit, c'est Dieu. Maintenant, là où je me suis catégorique avec les femmes du Maghreb qui s'agitent partout, qui confondent l'islam et la mondialisation, c'est ce qui les trompe. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux parce que la mondialisation modernise à quoi les textes qui ne correspondent pas à notre société et du moment. Mais quand il s'agit de la religion, on accepte ce qui dit la religion et ce que Dieu a écrit.
Tcherno,
oui.
Un exemple, vous n'avez que des filles, n'est-ce pas? Et vous avez des biens, hein? Selon vous, à qui reviendrait le fruit de votre travail? À vos frères, oncles, cousins, neveux ou à vos filles?
Non, vous savez, les filles héritent bel et bien leur papa, mais elles n'ont pas à même pied égalité que les hommes. Si elles ont des frères, leurs frères prend ceux qui prennent deux filles. Vous savez, là aussi, bon, on peut dire, c'est bien calculé. Imaginez, l'homme, il est un seul garçon et deux filles. Maintenant, les filles-là doivent être mariées. C'est l'homme-là qui doit charger toute la famille. C'est lui qui doit représenter le père. Est-ce que vous faites comprendre? Maintenant, s'il prend ceux qui doivent prendre les deux filles-là, c'est lui qui va chercher une autre femme pour le mariage. Il va faire l'adopter, ce qu'on donne aux femmes là. Pendant le mariage, dans notre tradition, j'ai oublié le mot, mais chape. C'est lui qui va rassembler toute la famille. Tous les charges reviennent à lui. Ça, quand c'est bien calculé, c'est pas la peine de s'agiter. Toutes les femmes que vous voyez s'agiter aujourd'hui, c'est les femmes que je dis musulmanes, mais au fond, elle ne pratique presque pas. Il faut oser de le dire parce que il ne peut pas te lever tôt le matin et aller contester. Hein? C'est les lois divines. C'est tout à fait anormal. Les États maghrébins, les royaumes chérifins, c'est vraiment c'est des politiques. Vous est-ce que vous faites comprendre?
Tcherno.
Oui. Oui.
Je vais vous lire ce commentaire de Mohamed. Il dit. J'ai vu beaucoup de drames autour de moi, de couples qui ont eu quantité de filles dans l'attente d'avoir un héritier mâle. Nous souhaitions deux enfants, donc lui et sa femme. Après la naissance de nos deux filles, nous n'avons pas jugé nécessaire d'en avoir d'autres. et son couple fait tout pour contourner cette loi et s'assurer que leurs filles vont hériter des biens des parents.
Ah ouais. Lui aussi, il veut juste.
Il ajoute ceci, il espère néanmoins que le Coran sortira de la tête du mauvais musulman. Il dit mauvais musulman.
C'est ça, ceux qui veulent faire la polémique là-dessus, si je pouvais interpréter tout ce qu'a dit le Coran, je pouvais le faire, mais malheureusement, certains mots, je ne pourrais pas les définir directement en français parce que c'est bien mentionné que quand il s'agit de la religion, il faut dire ce que tu sais. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu sais, sinon c'est de péché, Dieu te punira. Mais tout, je vais vous dire, toutes les femmes que vous voyez, c'est manifesté.
Oui, Tcherno ?
Est-ce que.
Tcherno ?
Oui, je vous écoute.
Oui, Mohamed poursuit en disant le Coran est un texte sacré auquel nous ne touchons pas. Il est valable en tout temps et en tout lieu, mais il faut savoir le relire à l'aune de notre époque comme une loi cadre dont les décrets d'application ont besoin d'être adaptés à la période actuelle. Il faudra...
Voilà, c'est Eric, c'est ce qui me révolte un peu, ceux qui pensent qu'il faut réadapter, ça veut dire que le moment actuel, ça veut dire comme si c'est quelque chose qu'on doit mettre à jour, alors que c'est pas comme ça. Quand il s'agit de la religion, c'est la religion. C'est pas quelque chose qu'on peut savoir réadapter, mettre à jour et dire que dans les années 60 ça allait, maintenant c'est pas du tout possible. Les femmes qui clament l'égalité entre hommes et femmes, d'accord, je suis convaincu qu'elles parviendront d'avoir un jour. Mais tous ceux qui croient en Dieu, ceux qui connaissent réellement la religion et ceux qui écoutent leurs parents, parce que avant que ça veut dire leur père s'en va, si les musulmans, ça trouvera qu'il a déjà enseigné ses filles ne doivent pas se poser.
Il y a aussi Siam qui dit l'inégalité de l'héritage est une survivance du système tribal. Les chefs héritaient, mais ils étaient redevables. Ils se devaient d'assumer la responsabilité matérielle et morale des femmes de la tribu. Or, tout cela a disparu. Il ne restait que l'inégalité de l'héritage. C'est son point de vue. Merci, Tcherno, pour votre contribution. Nous recevons Diarra Kanyoumé avant de mettre fin à cette émission. Diarra, bonsoir.
Et bonsoir, et bonsoir pour la rédaction des VOA.
Je vous écoute.
Ok, merci Eric. À mon avis, je pense que vraiment ce sujet est très très intéressant. Donc, à mon avis, je pense que vraiment l'islam est très important. Il faut imaginer que non, si les parents aussi étaient conseillés leur fille pour enseigner, de pratiquer la religion musulmane, je pense que non, vraiment, il n'y avait pas assez de beaucoup de problèmes d'aujourd'hui, à mon avis. Sinon, la religion, quand tu pratiques vraiment, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses dedans et tu connais vraiment. Ça facilite beaucoup de choses dans ta vie, à mon avis. Merci d'avoir m'appelé.
Merci, Diarra Kanyoumé, pour votre contribution. Il y a quelqu'un qui donne une définition, qui a fait une étude sur l'héritage dans le droit musulman. Il dit ceci en arabe, le terme héritage, mirat, a deux sens. Il signifie d'abord les biens qu'a laissé le défunt et ensuite la distribution de ces biens aux ayants droit après avoir déduit les frais d'obsèques, le remboursement de ses dettes éventuelles et le versement de l'argent qu'il a destiné par testament à des œuvres caritatives. C'est ce second sens qui intéresse ici et certains l'ont défini comme un droit pouvant être fractionné après la mort de son titulaire. Et c'est la fin de ce dialogue des religions qui était consacré à l'héritage et à l'islam. On parlait surtout de la problématique de l'héritage chez la femme. Merci de votre contribution. Eric Manilakiza vous retrouve à la prochaine. Agréable soirée chez vous.